France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Chaque jour, quand on marche à Kaboul, on voit quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père. Et ces attentats, ces choses-là sont devenues si normales, cela ne choque même plus personne.
Je suis inquiète car si les talibans revenaient, est-ce qu'ils me permettraient de travailler seule sans qu'un homme ne m'accompagne ? Parce que je me souviens qu'à l'époque des talibans, ils n'autorisaient pas les femmes à sortir de la maison sans un homme.
Les talibans sont des Afghans. Ils font partie de notre pays. Et en tant qu'Afghans, ils ont parfaitement le droit de participer au processus politique afghan.
Afghanistan, le terrain de guerre du monde, c'est le titre d'une exposition photo retraçant les bouleversements qui ont traversé ce pays en guerre depuis 1978. De la rébellion de paysans contre le coup d'État communiste jusqu'à la montée en puissance du radicalisme islamique, les images témoignent de la souffrance d'une population souvent prise au piège d'enjeux qui la dépassent. Des images visibles à Bayeux où nous nous trouvons aujourd'hui à l'occasion de la 26e édition du prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Des images qui renvoient à l'actualité, celle de l'élection présidentielle afghane dont on attend les résultats, celle des négociations interrompues entre les États-Unis et les talibans qui contrôlent toujours 50% du territoire afghan et ont infligé de lourdes pertes aux forces militaires afghanes. Les Américains disposent encore de 14 000 soldats sur place mais veulent se désengager du bourbier afghan. Les négociations vont-elles reprendre et les talibans pourraient-ils participer à un gouvernement d'unité nationale ? Afghanistan, la paix, à quel prix ? C'est un reportage signé Valérie Crova. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Jean-Pierre Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Longtemps reporter à Libération, vous êtes aujourd'hui journaliste indépendant et écrivain. Vous avez notamment écrit, parmi beaucoup d'autres livres, « Le djihad contre le rêve d'Alexandre » en Afghanistan de 330 avant Jésus-Christ à 2016, paru aux éditions du Seuil en 2017. Et vous êtes actuellement le commissaire de l'exposition « Afghanistan, le terrain de guerre du monde » que j'évoquais il y a un instant. À mes côtés également, Valérie Crova. Valérie, vous étiez tout récemment en Afghanistan, juste avant l'élection présidentielle.
Oui, c'était début septembre. Je suis restée à Kaboul, car malheureusement, les déplacements dans le pays sont toujours dangereux entre les enlèvements et les attentats. Et même dans Kaboul, les risques sont omniprésents. Comme vous allez l'entendre dans ce premier reportage, je suis accompagnée de mon traducteur, Haroun, qui m'a piloté pendant une semaine.
Samedi, il y a beaucoup d'embouteillages parce que c'est la journée de travail. Donc on a des embouteillages partout. La plupart du temps, nous évitons d'aller dans les embouteillages. En fait, les insurgés, surtout les talibans, préfèrent s'exploser dans les embouteillages, là où il y a beaucoup de monde et prend beaucoup de dégâts.
Ça, c'est un axe qui est très fréquenté et qui est très risqué, cette route-là.
En fait, on est près de la Green Zone. Et ici, c'est un axe que, d'un côté, la route de Jalalabad. Et d'autre côté, il y a beaucoup de monde qui entre dans le centre-ville de Kaboul. Et il vient par là. Et voilà, on est obligé d'accepter les risques et d'aller trop vite hein, si on aura la possibilité.
Les attentats font partie de votre vie quotidienne aujourd'hui ?
En fait, l'explosion, c'est une action vraiment sanguinaire en Afghanistan et que... Il y a partout, dans les provinces. Et on entend chaque jour par les télés, par les médias, que dans telle ou telle province, il y a une explosion, une attaque contre les policiers, contre les gens. Et on perd 50, 30, 20. Et toujours il y a des morts, toujours il y a des blessures. Je ne sais pas comment on peut réagir contre ce phénomène.
Est-ce que vous prenez des précautions particulières, par exemple, avec les attentats qui sont commis tous les jours pratiquement ? Est-ce que vous évitez de prendre votre voiture certaines heures ? Est-ce que vous évitez certains trajets aussi ?
Oui, il y a des précautions qu'on doit faire attention le moment qu'on sort ou on entre dans le centre-ville de Kaboul. Il y a toujours des explosions le matin. Les suicide bombers décident le soir de venir dans le centre-ville de Kaboul. Et lors de travail qui commence à 8h, 8h, 8h30, ils préfèrent venir à Kaboul, dans le centre-ville, près des employés du gouvernement, près des policiers, de l'ANA, des checkpoints, ou des convois militaires, des convois étrangers, préfèrent de s'exploser à ce moment-là.
Bonjour.
On arrive à l'université américaine de Kaboul. On va nous fouiller donc la voiture. Il y a un chien.
This camera?
No camera. No, no. Donc il y a un chien renifleur qui va vérifier qu'il n'y a pas d'explosif caché dans la voiture.
Mike 1 Alpha 32.
Là, il y a un des gardes qui va vérifier aussi, après le chien, sous la voiture. On est dans un espèce de sas, en fait, entre deux énormes portails orange. Tâche à corps. Can we go inside? Tâche à corps. Il y a des grands murs de béton tout autour de l'université. Des miradors aussi. C'est pour la protéger parce qu'il y a eu un attentat en 2016.
Ouais. Hein. Oui, il y avait un attentat en 2016. Et en plus, selon l'info, l'autre campus de l'université a été menacé par les talibans.
Récemment ?
Oui, récemment.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alayna wa
Dans ce temple du savoir, où est formée l'élite intellectuelle afghane, 1500 étudiants et étudiantes venus de toutes les provinces suivent les cours dispensés en langue anglaise. Dans les amphithéâtres spacieux ou sur le campus, les jeunes filles côtoient les garçons. Ici règne l'égalité des sexes.
My name is Shefa Siddiqui.
Mon nom est Shefa, j'ai 20 ans. Je suis étudiante à l'Université américaine d'Afghanistan en sciences politiques. C'est fascinant d'être ici. En fait, ça remplit mon cœur de joie tous les jours. Parce que je suis en mesure d'apprendre tellement de choses de beaucoup de personnes. Et tout le monde est très gentil, instruit et informé. C'est différent comparé à Kaboul parce qu'à Kaboul, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas marcher après 18
heures.
Mais dans cette université, vous pouvez marcher librement, parler aux genres opposés et poser des questions, ce que vous ne pouvez faire nulle part ailleurs. Je viens d'un petit village. Quand je vais dans ce petit village, je parle aux gens là-bas. Peut-être qu'ils ne sont pas instruits, mais ils ont aussi cette peur en eux. Parce que tous les jours, ils perdent leurs frères, ils perdent leurs pères, ils perdent leurs sœurs et leurs mères. Que ce soit à cause des talibans ou des membres de l'État islamique, ils perdent des proches. Ils savent que ça n'est pas la voie à suivre.
D'où êtes-vous ?
I'm from Lagman.
De Lagman. C'est un village près de Jalalabad.
If you go by road, it's almost,
si vous y allez par la route, il faut 3 ou 4 heures depuis Kaboul.
C'est un endroit sûr où il y a des combats.
Eh bien, dans certaines parties, l'État islamique est présent et les talibans également. Vous ne pouvez pas quitter la maison après 5 heures. Que vous soyez une femme ou un homme, quand il fait nuit, vous ne pouvez pas quitter la maison. Donc je ne dirais pas que c'est un endroit sûr.
Quand vous voyez ce qui se passe dans votre pays, quel est votre sentiment profond ?
Ça fait mal, ça fait tellement mal. Chaque jour, quand on marche à Kaboul, on voit quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père, ou ses pieds, sa main ou ses yeux. Juste en regardant les gens qui passent, on voit leur visage plein de tristesse. Mais ils ont le sourire aux lèvres. Ils font semblant d'aller bien. Et ces attentats, ces choses-là sont devenues si normales que personne n'en parle. C'est comme si un attentat se produit et 2 minutes plus tard, les gens sourient et parlent comme si rien ne s'était passé. Et même c'est devenu quelque chose de tellement normal dans cette société, cela ne choque même plus personne. Et ça me fait mal de voir ce que nous sommes devenus.
Le balai des hélicoptères de l'OTAN dans le ciel de Kaboul nous rappelle que plus de 17 000 soldats, en majorité américains, sont encore déployés pour assister les forces de sécurité afghanes. En ce jour férié, Haroun Mir nous reçoit chez lui. Cet analyste politique a été un proche du commandant Massoud, dont on célèbre aujourd'hui le 18e anniversaire de la mort. Dans son salon, Haroun Mir nous montre quelques photos.
Ça, c'est une photo de ma ferme dans le nord de Kaboul. Malheureusement, la situation a détérioré significativement, alors que moi, je ne peux plus y aller, surtout avec ma famille, depuis un mois. Il y a une présence, pas uniquement des insurgés, mais des groupes qui ont des armes. Et c'est, comme je n'ai pas de protection, alors aller avec ma famille, ça va être difficile. Alors qu'il y a un mois, je passais les week-ends là-bas, j'ai reçu même des journalistes, des diplomates, il y a quelques années, mais plus maintenant, parce que la situation a détérioré et maintenant y aller certainement est risqué.
Mais c'est pas loin de Kaboul, hein?
Non, c'est presque 50 kilomètres, dans le district de Karabakh, qui n'est pas très loin de la base militaire de Bagram. Ouais.
Quand vous dites que c'est des insurgés, c'est uniquement des talibans ou ça peut être d'autres groupes?
C'est ça, on ne sait pas. On sait qu'il y a une présence. Mais on ne sait pas si ce sont des talibans, si ce sont Daesh ou un autre groupe, parce qu'ici en Afghanistan, il y a des groupes qui existent, qui sont armés. Ça peut être des criminels, on ne sait pas, mais il y a une présence. C'est pour ça qu'on ne prend pas de risques inutiles.
Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait eu des problèmes importants?
Il y a eu des assassinats. Il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement qui ont été assassinés par... Surtout dans le village que je vis. Donc ça continue. Cette année, uniquement, il y a eu 3-4 assassinats.
D'employés du gouvernement?
Employés du gouvernement, oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation sécuritaire dans l'ensemble de l'Afghanistan à l'heure actuelle?
Oui, la situation certainement a détérioré pendant les 5 ans de gouvernement de unité nationale. Les insurgés, certainement, ont gagné de terrain. Et la pression sur les forces militaires afghanes a augmenté. Malgré tout, les forces afghanes ont pu se défendre, ce qui est très important. Malgré le nombre de tués qu'on a, les soldats afghans se battent. Donc ils ne sont pas rendus massivement. Et le gouvernement a pu défendre les centres de population, comme les grandes villes, ce qui est très important aussi parce que les talibans ont essayé de prendre des villes, surtout dans le nord, ils ont essayé de reprendre 2 fois la ville de Kunduz, et dans l'ouest, ils ont essayé de prendre la province de Farah et aussi la ville de Ghazni, mais ils n'ont pas réussi. Donc, ce qui est une indication que les forces afghanes ont la volonté de se battre et que le gouvernement afghan a pu se défendre parce que souvent les gens pensaient qu'après la sortie de l'OTAN de l'Afghanistan, surtout quand on avait plus de 100 000 soldats l'OTAN en Afghanistan, ils pensaient que les talibans vont être capables à prendre des provinces et ils n'ont pas pu.
On ne peut pas oublier la guerre à Kaboul, on l'a bien entendu là dans ce reportage de Valérie Krova. Jean-Pierre Perrin, quels sont les territoires contrôlés par les talibans aujourd'hui?
Alors globalement la périphérie de l'Afghanistan, en particulier toute la zone frontalière le long de la frontière pakistanaise, et puis une partie importante des provinces du nord également, à l'ouest on les retrouve. Tout le sud est complètement entre les mains des talibans, à part les chefs-lieux de district et les capitales provinciales. Lui échappe au mouvement des talibans tout le centre de l'Afghanistan, mais il est effectivement très peu peuplé. Lui échappe également une partie du nord, et puis toutes les villes afghanes n'ont jamais été conquises par les talibans, ou alors brièvement, comme l'a rappelé Haroun Mir. Donc les villes sont tenues par le gouvernement, mais c'est vrai que les talibans contrôlent 50% du territoire afghan, mais si on regarde la population, eh bien comme les villes sont de plus en plus plus nombreuses en population, gonflées par une urbanisation sans frein, eh bien, ils contrôlent quand même beaucoup moins de population que le gouvernement.
Mais une force qu'ils ont, les talibans, c'est qu'ils détiennent les régions productrices d'opium.
Oui, ils les tiennent. Et puis alors, ce qui est très important que personne ne souligne, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que le gouvernement, lui, doit composer avec le temps. La population est épuisée par 40 années de guerre, elle veut la paix. Mais si on regarde les talibans, eux, le facteur temps ne compte pas. Vous savez, un chef afghan un jour a dit à un journaliste, vous avez des montres, vous les occidentaux, mais nous, nous avons le temps. Et ce temps, pourquoi le contrôle-t-il? Tout simplement parce que l'essentiel de leurs forces n'ont connu que la guerre. La paix, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils vivent des situations de violence depuis toujours. Donc la paix est un horizon lointain, qu'elle intervienne demain ou dans 10 ans, finalement, ce n'est pas si important. Ils veulent en tout cas la paix, eux aussi, mais après la victoire, alors que le gouvernement veut la paix maintenant.
Le gouvernement qui est fragilisé, et puis l'armée afghane va essuyer des pertes très conséquentes.
15 000 hommes sont tués chaque année en moyenne, force de police et l'armée, ce qui est considérable, ce qui nous fait 45 000 à 50 000 hommes tués chaque année, sur 5 ans, pardon, 45 à 50 000 hommes tués sur 5 ans. Il faut rajouter les blessés, multiplier par 3. Donc on voit que c'est une armée qui est absolument saignée, à la fois par les pertes qu'elle enregistre au combat, mais aussi par les désertions, par le fait que de moins en moins de jeunes Afghans veulent la rejoindre, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, les payes sont souvent pas assurées, la corruption, les officiers qui se comportent mal, vous voyez, donc c'est une armée qui cependant progresse, mais peut-être pas autant qu'il le faudrait.
Donc l'armée a du mal à recruter. Alors elle a réussi effectivement à repousser les talibans, mais avec le soutien des Américains, est-ce qu'elle pourrait résister seule?
Alors c'est la question, voilà, c'est vraiment la question, sachant qu'il y a quand même des forces spéciales, on va les appeler comme ça, des forces spéciales afghanes, qui sont pas mauvaises au combat. Est-ce qu'elles sont suffisamment nombreuses pour résister? En tout cas, on les appelle chaque fois qu'il y a un problème important quelque part, et je crois qu'au bout d'un moment, elles vont sans doute fatiguer, mais je crois qu'on peut pas à peu près... Faut pas présumer de l'avenir. Peut-être que ce qui est plus inquiétant, c'est la capacité des talibans à mener des combats à très long terme.
Et alors ces forces d'élite afghanes que vous évoquiez, elles ont été formées par les Américains?
Oui, essentiellement, oui.
Alors il n'y a pas que le gouvernement et les talibans, il y a aussi d'autres forces en présence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça, Jean-Pierre Perrin?
Oui, bien sûr. Lorsque les talibans pakistanais, parce qu'il y a aussi les talibans pakistanais, ont été vaincus militairement par le gouvernement pakistanais, eh bien, une partie d'entre eux ont trouvé refuge en Afghanistan. Et là, il y avait déjà les talibans afghans, évidemment, donc c'était une deuxième force concurrente. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait alliance, ils se sont plutôt ralliés à l'État islamique, à Daesh, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ils lui ont fait allégeance et ils ont commencé à constituer des groupes islamistes ultra-violents et très concurrents des talibans qui, évidemment, les ont combattus. Donc nous avons une guerre maintenant à 3, le gouvernement, les talibans et puis les forces de l'État islamique, encore très limitées, peut-être pas plus d'un millier d'hommes, mais qui ont tendance à faire les attentats les plus violents, notamment à Kaboul, qui contrôlent les régions stratégiques, qui gagnent aussi un petit peu de terrain, en perdent parfois, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, le jeu se déroule désormais à 3. Les principaux adversaires maintenant des talibans, c'est l'État islamique, et inversement, le gouvernement afghan est un peu dépassé. Et puis il y a enfin tous les groupes de bandits, les pillards, les trafiquants de drogue, qui ont des véritables petites armées, les milices, les chefs de guerre qui n'ont pas disparu. Tout ceci participe au chaos afghan, même si encore une fois, les villes sont tenues par le gouvernement.
Et au milieu de ce chaos que vous décrivez, les civils payent évidemment le prix fort.
Oui, pour la première fois, les pertes cet été ont été le fait davantage des forces de la coalition, c'est-à-dire l'armée américaine et l'armée afghane, en particulier des bombardements aériens, que par les talibans. Les talibans tuent beaucoup de gens, mais là, cette fois, le chiffre des pertes est dépassé par celles qui sont causées par les forces afghanes et américaines elles-mêmes, ce qui est quand même très très inquiétant, et ce qui évidemment va rallier de nouveaux combattants aux talibans
qui vont être
absolument ça. Et voilà, ça c'est. Et puis l'année effectivement est de plus en plus meurtrière chaque année. L'essentiel des pertes, ce sont quand même les civils qui les enregistrent.
Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Valérie Crova. La deuxième partie de votre reportage est consacrée aux femmes afghanes. Vous avez rencontré trois femmes inquiètes du possible retour au pouvoir des talibans.
En effet, et la première de ces femmes habite dans la périphérie de Kaboul, près du palais d'Arlaman, qui est un très très beau bâtiment qui a longtemps été laissé à l'abandon après avoir été détruit à cause de la guerre civile. Et aujourd'hui, eh bien, il a retrouvé de sa splendeur après une entière rénovation. Je vous propose de venir avec moi.
Salam.
Hello, good morning. Welcome.
Mon nom est Margouba Safi. J'ai créé, je dirige une entreprise de soins bio pour la peau en Afghanistan qui s'appelle Peshaft Ezanan. Ça veut dire progrès des femmes. Nous produisons 8 types de savons à base de lavande, safran, charbon médicinal, rose, curcuma, cumin et également d'aloe vera. Nous avons une petite ferme biologique dans laquelle nous plantons ces fleurs, on les récolte et les transforme, puis on en fait des essences pour les utiliser dans le savon et la crème, tous fabriqués à la main et biologiques. C'est la première fois qu'une femme en Afghanistan est à la tête d'une entreprise de cosmétiques bio. C'est la première fois.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour créer votre entreprise en tant que femme ?
Comme d'autres femmes, j'ai été confrontée à beaucoup de problèmes, en premier lieu dans ma famille. Ils pensaient que pour une femme, ce n'était pas bon de sortir sans un homme, même si nous sommes ouverts d'esprit dans la famille, mais la société est comme ça. Quand je suis arrivée ici et que j'ai repris la ferme, au début, les gens m'ont demandé où était mon mari, pourquoi je venais seule pour négocier le terrain. Et je leur ai pas dit que j'étais mère célibataire, parce qu'ils n'aiment pas qu'une mère célibataire travaille. Mais malheureusement, je suis la seule personne responsable de ma propre famille et de mes enfants. Mais cela reste très difficile pour moi. Mais je fais face et je résous mes problèmes.
Il en a fallu de l'obstination et du courage à Margouba pour s'imposer dans une société afghane qui reste profondément patriarcale. Aujourd'hui, cette mère de 40 ans, qui élève seule ses trois enfants, est devenue une entrepreneuse. La plus grande inquiétude de Margouba, être contrainte un jour de tout arrêter.
Je suis une mère célibataire et je suis responsable de toute ma famille. Aucun homme ne m'aide. Il y a juste moi et mes enfants et les 20 femmes qui travaillent dans notre ferme. Je suis inquiète car si les talibans revenaient, est-ce qu'ils me permettraient de travailler seule sans qu'un homme ne m'accompagne? Est-ce que je pourrais travailler ou non? Parce que je me souviens qu'à l'époque des talibans, ils n'autorisaient pas les femmes à sortir de la maison sans un homme. Mais moi, mes enfants vont à l'école. Il n'y a personne pour m'aider à venir travailler. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'ils m'y autoriseraient? S'ils arrêtent mon entreprise, je ne pourrai plus subvenir aux besoins de mes enfants. Je n'aurai plus de quoi les envoyer à l'école et je n'aurai plus de quoi manger. Les 20 femmes qui travaillent avec moi, elles aussi reçoivent de l'argent en fonction de leur travail. C'est ce qui me préoccupe.
Les craintes de Margouba reflètent celles de toutes les femmes afghanes. Car depuis la chute des talibans, il y a 18 ans, elles ont acquis des droits et se sont émancipées, du moins dans les grandes villes d'Afghanistan. Quand les Américains ont entrepris de négocier avec les talibans, elles se sont senties trahies. De retour dans le centre de Kaboul, nous avons rendez-vous avec Maria Akrami, directrice du réseau des femmes afghanes.
Depuis l'année dernière, depuis le début des pourparlers de paix, nous avons élevé la voix. Nous avons dit que ce processus de paix, la façon dont il était mené, ce n'était pas acceptable par tous, surtout pour les Afghans et en particulier pour les femmes afghanes. Au début, ils ne voulaient pas de femmes. Finalement, après beaucoup de lobbying et de plaidoyer, nous avons eu accès au 7e round de négociations. Quelques femmes ont fait partie des pourparlers de paix.
I was there, but it didn't come so easy. We had a long way.
J'étais là, mais ça n'a pas été si facile. Nous avons parcouru un long chemin. Je dois dire que nous avons beaucoup lutté, fait beaucoup de bruit à l'intérieur du pays, puis finalement à l'étranger. Nous, le peuple afghan, et en particulier les femmes, nous étions tellement inquiet de la façon dont l'accord était présenté et dans lequel les talibans mettaient l'accent sur un émirat islamique et étaient représentés comme une grande puissance. Mais pour nous, ils tuent des gens innocents tous les jours. C'est un groupe terroriste. Et la façon dont on leur a donné une tribune au cours des 8 derniers mois, ça nous a également particulièrement choqués. Nous espérons maintenant qu'il y aura un meilleur accord de paix. Mais comment vont-ils revenir? Comment vont-ils appréhender le futur? Vont-ils mettre en place une nouvelle procédure ou une nouvelle tactique? Nous ne le savons pas. Et ce que nous voulons vraiment, c'est appeler tout le monde, et particulièrement la communauté internationale, à ne pas rester silencieuse, car elle a été également impliquée, directement ou indirectement, dans ce conflit en Afghanistan. Elle a soutenu le gouvernement afghan au cours des 18 dernières années, et tout à coup, on confie tout aux talibans. Comment est-ce possible? Comment acceptent-ils cela? Traiter avec les talibans, leur donner une telle plateforme? Ce n'était pas la bonne façon de procéder. J'ai été témoin de la guerre civile et nous ne voulons pas de retour en arrière.
On enlève les chaussures?
Dans sa maison qu'elle partage avec sa sœur, députée au Parlement, et régulièrement menacée de mort par les talibans, Palwasha Hassan n'envisage pas non plus de retour en arrière. Cette activiste dirige le Centre d'éducation des femmes afghanes, une ONG qui œuvre pour la protection et la promotion des droits des femmes.
Salam alaikum.
Ce qu'elle souhaite le plus ardemment, comme toutes ses sœurs afghanes, c'est la fin des violences qui endeuillent chaque jour son pays.
De quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui? Est-ce que c'est des attentats ou est-ce que c'est du retour des talibans au pouvoir?
Both.
Les deux.
Parce
que d'un côté, le nombre de victimes est si élevé et je sais que les talibans veulent accéder au pouvoir en tuant des gens, ce que nous considérons comme totalement inhumain. Parce que ce n'est pas une façon de gouverner un pays ou d'être au pouvoir, de créer encore plus de terreur et d'horreur. Chaque jour, il se passe quelque chose. Des gens sont tués, des amis à nous, et nous sommes inquiets tous les jours. Nous voulons la paix. Nous voulons tout d'abord un cessez-le-feu. Nous avons perdu beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays. Et vous aussi, vous avez perdu des hommes et des femmes dans ce pays. Et à la fin, le résultat est nul. Nous revenons à la situation d'il y a 18 ans. Alors, pourquoi nous sommes-nous battus toutes ces années? Cela me semble ridicule. Ça n'a pas de sens pour moi.
Est-ce que vous pensez que la paix est possible avec ou sans les talibans?
La paix est possible avec les talibans, mais cette paix ne devrait pas leur donner une tribune. Si ces hommes peuvent être désarmés, s'ils peuvent se joindre aux autres Afghans de ce pays, c'est bien, c'est ce que nous voulons. Beaucoup de gens peuvent pardonner les choses du passé, mais les talibans ne peuvent pas s'en tirer en toute impunité. La paix va de pair avec la justice. Ils ne devraient pas pouvoir revenir en imposant les mêmes règles qu'ils avaient imposé avant. Ce ne serait pas une paix réelle. Nous avons des élections, nous avons une éducation et nous menons une vie civilisée comme n'importe quel autre pays et nous pourrions y contribuer. Mon pays est tellement en retard sur le reste du monde. Pour moi, l'indépendance, ce n'est pas comme le prétendent les talibans, la fin de l'occupation étrangère. Pour moi, l'occupation étrangère prendra fin lorsque nous ne dépendrons plus de l'aide internationale, lorsque j'aurai mon propre argent. Lorsque je pourrai voyager avec fierté en France, aux États-Unis et partout ailleurs, sans que les gens ne m'arrêtent à l'aéroport et me prennent pour une terroriste. C'est ça mon indépendance. Et non ce que les talibans me proposent.
Aïkosh
Afghanistan, la paix à quel prix ? Un grand reportage de Valérie Crova avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de grand reportage est le journaliste Jean-Pierre Perrin, fin connaisseur de l'Afghanistan. Et l'exposition que vous présentez à Bayeux, Jean-Pierre Perrin, est dédiée aux femmes afghanes.
Oui, je crois qu'elles sont les grandes oubliées des guerres afghanes, parce que premièrement, pendant que les hommes se battaient au cours des différentes guerres, qui est-ce qui maintenait le foyer en l'état ? Qui est-ce qui faisait vivre les enfants ? Qui est-ce qui travaillait au champ pendant que les hommes ne faisaient rien ou faisaient la guerre à la rigueur ? Donc ce sont les femmes afghanes, elles ont payé un très lourd tribut, hein. Il y a eu beaucoup de kidnapping de femmes afghanes par les talibans, il y a eu des viols, il y a eu aussi toute une époque où elles ne pouvaient rien faire à cause de la tyrannie des talibans et que ce sont elles qui assuraient l'éducation des enfants dans des écoles clandestines. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a eu des accords de paix ou lorsque les talibans ont été chassés du pouvoir ou les Russes qui ont quitté l'Afghanistan, on ne les a jamais remerciés, on n'a jamais dit « grâce à vous, vous avez maintenu la flamme du pays, vous avez maintenu la flamme du foyer, vous avez permis aux enfants de survivre ». Il n'y a jamais eu un mot pour les remercier. Donc on a essayé de faire un petit peu l'inverse, de leur donner la parole à travers des photos, à travers aussi la poésie des femmes afghanes, quelque chose qui est très méconnu en France, parce que ces femmes afghanes ont des voix. Alors c'est de la poésie spontanée, improvisée, jetée comme des cris à la face du ciel, dans lequel elles déclament leur, non pas leur soumission, comme on pourrait le croire, mais leur révolte, leur rébellion. Elles disent qu'elles veulent qu'on les marie à des maris trop vieux, elles détestent en général leur mari, et elles le disent, elles préfèrent l'amant, mais c'est un amant évidemment plutôt imaginaire que réel, parce que bon, la peine pour l'adultère, la lapidation, mais en tout cas nous avons des cris de révolte qui ont été enregistrés il y a déjà quelques années par un poète et anthropologue afghan, et nous avons décidé d'en faire une sélection et de faire en sorte que ces vers, qui s'appellent des landai, accompagnent les photographies de l'exposition.
Oui, des petits poèmes très courts, hein. Alors effectivement, il y a « Dieu emporte ce vieil époux qui monte la garde de mes nuits et s'endort tout le jour ». Ou alors, au contraire, l'appel à l'amant « Viens m'embrasser sans penser au danger ». Si l'on te tue, quelle importance, les vrais hommes meurent toujours pour l'amour d'une belle.
C'est émouvant quand même, hein.
Donc, il y a
ce mélange de l'érotisme est collé à la mort, hein. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, ce sont quand même des femmes qui ne sont jamais allées à l'école. Donc, on a quelque chose qui vient vraiment du cœur, de l'âme, qui ne se passe pas par les canaux d'éducation.
Alors, il y a la beauté, il y a la douceur, il y a le feu de ces poésies. Il y a aussi des images terribles. Je pense notamment à cette photo d'une femme qui a survécu à une immolation.
Oui. Alors, la grande tragédie que subissent les femmes afghanes, c'est d'être mariées avec des hommes qu'elles n'aiment pas, qui ne les aiment pas, et de vivre au sein de familles qui ne les aiment pas non plus, et qui les considèrent comme des esclaves. Vous savez, souvent les anthropologues disent que finalement la femme afghane a certaines libertés, n'est pas si malheureuse que ça. Moi, je dis ça, ce n'est pas vrai. C'est les femmes afghanes dans les campagnes, je ne parle pas des villes, les femmes afghanes dans les campagnes sont traitées comme du bétail, en particulier dans les zones tribales, elles sont traitées comme du... Lorsqu'il y a un conflit entre deux familles, par exemple, comment le résout-on ? Eh bien, simplement, on marie une fille contre son gré avec la famille, avec l'homme de la famille adverse, et cette pauvre malheureuse, elle va passer sa vie en esclavage, à faire tous les travaux les plus épouvantables, à être traitée par sa belle-mère comme une étrangère qu'on peut opprimer tant qu'on veut. Non, je pense qu'il y a une véritable détresse de la femme afghane qui s'exprime parfois de façon tragique par l'immolation, hein. Le chiffre des femmes immolées en Afghanistan est absolument terrible. Et puis, donc, on a montré cette femme qui accepte de se montrer nue quand même, ce qui est quand même assez nouveau, de se montrer nue, de montrer son corps complètement brûlé par le feu lorsqu'elle a essayé de s'immoler. Et ça, nous avons des exemples qui, dans les hôpitaux afghans, nous avons des sections entières qui sont consacrées aux brûlés, aux grands brûlés que sont les femmes afghanes.
Et donc il y a un décalage assez fort de mode de vie, de mentalité entre campagne et ville.
Oui, Il y a un grand, grand décalage. Donc les villes sont davantage ouvertes à la modernité. Dans les campagnes, la vie n'a peu évolué. Encore que l'irruption de la télévision, et il y a des télévisions afghanes indépendantes qui sont très, très virulentes, qui sont très combatives, qui sont très politiques, et aussi dans lesquelles il y a des programmes pour l'éducation des femmes. Je vais en citer une qui est la plus connue, c'est Tolo. Tolo a eu finalement une audace folle. Ces journalistes ont payé un prix lourd, puisqu'ils en étaient plusieurs d'entre eux ont été assassinés il y a quelques années pour avoir justement révélé des kidnappings des femmes afghanes par les talibans. Donc tout ceci contribue finalement à faire bouger les choses très très lentement dans les campagnes, beaucoup plus dans les villes où il y a la naissance d'une société civile et puis les femmes vont à l'université. Juste, il y a quand même une femme gouverneur, une femme pilote d'avion, de chasse, des femmes policières, des femmes dans l'armée avec des grades d'officier. Donc ça avance un peu, mais pas aussi vite qu'elle le souhaiterait.
Valérie Krova.
Et il y a aussi des photos de milices de femmes afghanes.
Alors, il y a des photos de milices de femmes afghanes. Ça, c'était du temps de l'occupation soviétique. Effectivement, le Parti communiste avait organisé des groupes de miliciennes, mais qui ont joué plus un rôle symbolique. C'était pour montrer que la femme afghane pouvait s'émanciper par l'armée, tout ça. Aujourd'hui, non, on n'en est pas là. Mais effectivement, il y a des femmes dans la police et beaucoup de femmes, enfin, de plus en plus de femmes dans l'armée afghane.
Alors, on en revient donc effectivement à aujourd'hui. On n'en est donc pas encore à l'égalité homme-femme, même dans les zones qui ne sont pas contrôlées par les talibans. Mais on entendait cette inquiétude de femmes de Kaboul face à l'hypothèse d'un retour des talibans. Alors, ils tiennent, eux, aujourd'hui, un discours de relative ouverture en disant mais il n'y a pas de problème, les femmes peuvent aller à l'école, peuvent travailler. Il précise simplement en accord avec les valeurs de l'islam. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement ?
Il faut comprendre qu'ils n'ont pas changé. Enfin voilà, simplement. Non mais je veux dire, si on regarde la réalité, ce qui se passe dans la campagne, on voit des lapidations, on voit des amputations, on voit des exécutions, beaucoup d'exécutions. En revanche, ils sont appréciés pour une chose, et ça il faut le souligner, c'est qu'ils rendent la justice. Vous savez, la campagne afghane a besoin de justice. Elle a besoin qu'on règle des problèmes de terre, de fermage, d'irrigation, de dot, de mariage, de divorce. Tout ça, il faut que ça soit réglé. Le gouvernement afghan ne contrôle rien ou peu de choses des campagnes. Donc, il y a des problèmes juridiques intenses à régler. Et lorsque les talibans arrivent, ils délèguent aussitôt un juge pour régler ces problèmes qui rendent la justice bien ou mal. C'est pas le problème. Ils rendent la justice. Et au moins, c'est ce dont les gens leur portent crédit. Et puis, ils restaurent l'ordre. Il n'y a plus de bandits, il n'y a plus de pillards. Vous voyez. Mais bon, la contrepartie, en revanche, elle est exorbitante. C'est-à-dire qu'ils font régner une loi d'airain sur le pays et les femmes sont cloîtrées dans les maisons.
Et autre faiblesse du gouvernement afghan, c'est la corruption, en fait, qui gangrène la police, les administrations.
Si on fait le compte de l'argent qu'a reçu l'Afghanistan depuis la chute des talibans en 2001, c'est l'équivalent du plan Marshall pour l'Europe. Vous rendez compte, les masses d'argent qui ont été investies en pure perte et qui sont parties ou dans la corruption. Les ONG en ont pris une partie parce qu'une multitude d'ONG, après la chute des talibans, se sont installées pour profiter de cette manne financière qui arrivait. Et puis, les talibans, évidemment, en détruisant systématiquement les infrastructures qu'il faut reconstituer, eh bien aussi, ça coûte de l'argent. Et donc, les Afghans n'en ont pas vu beaucoup la couleur. Les chefs de guerre ont pris leur part, le gouvernement a pris sa part. On a quand même des autorités très largement corrompues, une police épouvantablement corrompue, l'armée les moins, heureusement.
Alors à Kaboul, Valérie, vous avez rencontré l'ancien président afghan Hamid Karzai. Il a présidé l'Afghanistan de 2004 à 2014. C'est encore aujourd'hui un homme influent et il est favorable aux négociations avec les talibans. On l'écoute.
Bien sûr. Je suis favorable à leur participation au futur gouvernement basé sur une entente afghane. Les talibans sont des Afghans. Ils font partie de notre pays. Et en tant qu'Afghans, ils ont parfaitement le droit de participer au processus politique afghan, comme nous tous, Afghans, avons le droit de participer à notre processus politique. Ils l'ont également. Mais pour cela, nous devons d'abord parvenir à la paix et à la stabilité.
Mais ils ont déjà commis des actes terribles et ils continuent de commettre des attentats.
Ils ont tous fait cela. Les Américains ont fait la même chose. Le gouvernement a fait la même chose. Les atrocités ont été présentes de tous les côtés. Et nous devons condamner les atrocités d'où qu'elles viennent. Et lorsque la paix sera revenue, les talibans auront tous les droits dont bénéficient les Afghans. Ils pourront être au gouvernement, ils pourront être dans le système judiciaire, ils pourront être au Parlement, ils pourront se présenter à la présidence. Mais si les Afghans disent non et choisissent un autre président, ils devront l'accepter. S'ils veulent se présenter au Parlement et que les Afghans votent pour eux, ils seront bienvenus en tant que députés, comme cela a été le cas pendant mon mandat. Il y a eu des talibans candidats au Parlement. Certains d'entre eux ont été élus au Parlement, certains d'entre eux n'ont pas gagné. C'est leur droit en tant que citoyens de ce pays de participer pacifiquement et de façon civilisée.
Dans un entretien avec un collègue de Libération, vous avez eu des mots très durs à propos des États-Unis. Ils nous dupent depuis longtemps. Que voulez-vous dire ?
Écoutez, ils ont mené une guerre au nom de la violence et du terrorisme. Ils ont constaté que le terrorisme avait des sanctuaires au-delà de nos frontières, au Pakistan. Ils n'y sont pas allés pour y mettre fin. Il y a quelques mois, le président Trump a tweeté que les États-Unis avaient versé 34 milliards de dollars au Pakistan. Alors, comment peuvent-ils payer 34 milliards de dollars à un pays alors qu'eux-mêmes disent que ce pays soutient le terrorisme et l'extrémisme en Afghanistan?
Est-ce que la paix, selon vous, est possible avec les talibans?
Bien sûr. Les talibans sont des Afghans. Ils sont de ce pays. Nous devons avoir la paix. Aucun pays ne peut être en guerre pour toujours. Cela doit finir. Ce besoin s'inscrit dans la nature humaine.
Hamid Karzai, ça vous surprend Jean-Pierre Perrin, un ancien président afghan qui souhaite un gouvernement avec les talibans?
Oui, parce qu'il n'avait pas tout à fait la même politique quand il était au pouvoir. En fait, il déteste le président actuel, le président Ashraf Ghani, il déteste également le principal rival d'Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah. Non, effectivement, il a tenté des négociations avec les talibans. Il a plusieurs fois essayé de relancer un processus. Les talibans ont tué quand même le chef de la délégation qui s'occupait justement du processus de paix, de négocier avec les talibans. Donc, en plus, bon, quand même, la situation catastrophique à laquelle on assiste aujourd'hui, il en est en grande partie responsable. La corruption sous son règne, sous ses différents mandats, a été sans frein. Son frère était une des personnes les plus corrompues de l'État, de Kandahar, ex-capitale du royaume, d'où mon lapsus, et puis un grand trafiquant de drogue, son frère également, hein, finalement, les rapports de la CIA l'ont révélé, et il a finalement été tué par les talibans. Donc, je crois que Karzai est de parfaite mauvaise foi, et je crois qu'il est en grande partie responsable du chaos actuel.
Alors, on va tout de suite écouter une autre analyse, celle du politologue Haroun Mir.
Nous voulons certainement une transition qui va permettre la stabilité politique de l'Afghanistan et surtout la sécurité de la nation, parce que nous avons certainement l'expérience des soviétiques sans désengager de l'Afghanistan, sans avoir une transition, et malheureusement la guerre civile a continué après date. Et nous voulons pas répéter l'histoire en Afghanistan. Et cette fois, nous sommes en faveur d'une transition, et cette transition va prendre un certain temps, parce que arriver à une consensus nationale et surtout à avoir une consensus régionale sur l'Afghanistan, ça peut pas se faire dans les mois. Ça va prendre du temps, et c'est pour ça que nous voulons s'engager dans un dialogue avec les talibans pour arriver à des accords qui vont garantir une paix qui va être durable en Afghanistan. Nous voulons protéger la constitution afghane, nous voulons protéger le système de gouvernement que nous avons, et aussi les gains que nous avons eus pendant les 18 ans, surtout le droit de l'homme, le droit des femmes, et les libertés que nous voulons sauvegarder. Nous avons des femmes représentées dans le Parlement, dans le gouvernement, dans la vie sociale, active dans tous les secteurs de l'économie. Ça, c'est un problème pour les talibans. Et deuxièmement, l'émergence de la population jeune en Afghanistan, qui ont accès à la média internationale, qui ont accès à la média sociale, qui parlent les langues étrangères, ce qui n'était pas le cas dans les années 90 en Afghanistan. Donc les talibans, peut-être, ils peuvent imposer leur volonté sur la population rurale, mais pas partout. Pour la population urbaine, c'est très difficile, parce que les gens demandent des services, les gens demandent de l'emploi, la sécurité, la justice, et aussi accès à l'éducation et aux services de santé. Donc je vois très très mal les talibans capable à adresser tous ces problèmes qu'une société moderne demande.
Jean-Pierre Perrin, il n'y a pas de dialogue inter-afghan à l'heure actuelle. Est-ce que ça pourrait devenir possible avec un changement de président ?
Oui, ça peut devenir possible, effectivement. Est-ce que les talibans sont sincères dans leur volonté de dialogue ? Sans doute. Ils veulent dialoguer. Tout le monde veut dialoguer en Afghanistan. Simplement, dialoguer pour arriver à quoi ? Les objectifs des uns et des autres discordent totalement. Les talibans veulent un État islamique, un émirat islamique, comme ils l'appellent, ils s'appellent déjà eux-mêmes comme cela, dans lequel il n'y aura pas d'élection. Ils pensent que les élections sont contraires à la loi divine, donc ils n'en veulent pas.
Ils veulent changer la constitution.
Oui, absolument. Ils n'en veulent pas de constitution, d'ailleurs. Ils disent que l'Afghanistan n'en a pas besoin. Simplement, la charia est suffisante, la loi islamique est suffisante, on n'a pas besoin de constitution, à l'image de l'Arabie Saoudite qui n'en a pas, par exemple. Donc les objectifs sont très différents. Alors évidemment, ils peuvent discuter, mais je crois quand même que l'arrière-pensée des talibans, c'est ce qu'on peut lire dans leur littérature, parce qu'ils publient beaucoup, on oublie ça, mais ils publient énormément, les talibans, une quantité de textes, donc où ils sont souvent contradictoires d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Mais derrière ce qu'on peut décrypter de leur arrière-pensée, c'est qu'ils veulent tout le pouvoir.
Alors on retourne une dernière fois à Kaboul, Valérie, pour évoquer le désengagement américain.
Et oui, c'est un sujet qui fait vivement réagir Michael Barris, cet Américain né à New York, qui a suivi ses études en France, ce qui explique son français impeccable. Il est aujourd'hui professeur émérite à l'Université américaine d'Afghanistan, un pays qu'il connaît parfaitement pour l'avoir sillonné dans tous les sens depuis 40 ans.
Est-ce que vous me permettez d'être cru ? Ce sera la troisième fois que les Américains trahissent leurs propres intérêts. En 1953, l'Afghanistan, très inquiet du surarmement du Pakistan voisin devenu allié des États-Unis, avait demandé d'être accepté par Washington dans l'alliance occidentale qui comprenait à l'époque la Central Treaty Organization avec la Turquie, l'Iran, le Pakistan et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et les États-Unis ont refusé pour faire plaisir au Pakistan. Donc l'Afghanistan a accepté l'offre soviétique de fournir, d'équiper, de former les forces armées afghanes. Avec le résultat que l'on sait, ces forces armées ont pris le pouvoir en 1978. Le deuxième abandon américain en 1989, une fois le retrait soviétique obtenu, a consisté à laisser littéralement l'Afghanistan tomber en remettant toute responsabilité quant à la gestion du chaos post-soviétique à l'allié pakistanais. Les Américains s'en sont mordus les doigts en 2001. Cette erreur est en train de se répéter, et ça, cette fois-ci, tant les militaires que tous les diplomates responsables savent à Washington que la menace qui pèse sur l'Afghanistan d'aujourd'hui, c'est une réplique de la catastrophe irakienne. Trois présidents américains successifs, George W. Bush, Barack Obama et enfin Donald Trump. Trois personnalités aussi radicalement différentes qu'on puisse imaginer. Aucun de ces trois présidents ne souhaitait l'engagement militaire en Afghanistan. On peut dire ce qu'on veut de George W. Bush et de sa maladresse insigne dans son invasion irakienne, par exemple, mais il a dit au nom de son pays, au nom de son gouvernement, au nom de son peuple, que plus jamais les Américains n'abandonneraient les Afghans. C'est ce qu'il a dit en 2001. Donc on peut dire aujourd'hui que l'effort de M. Donald Trump de se désengager de l'Afghanistan comme il le fait représente une trahison de la parole donnée. Et en tant qu'Américain, je dénonce ce que j'appelle une trahison. Il n'y a pas d'autre mot. En outre, il y a une autre intervention étrangère qu'il ne faut jamais passer sous silence, c'est l'intervention pakistanaise. On peut résumer toute la politique pakistanaise, même si je connais ses justifications, qui est qu'en 1947, l'Afghanistan a été le seul pays de la planète à voter contre l'accession du Pakistan aux Nations Unies. Ce que tout le monde a oublié, sauf les Pakistanais. Parce que les Afghans n'ont pas accepté la frontière laissée par les Britanniques et qui avait amputé des morceaux de territoire afghan laissé en 1947 aux Pakistanais. Donc c'est un conflit frontalier qui n'a pas cessé de s'envenimer, et le Pakistan, lui, dès 1947, a perçu Kaboul comme une base hostile à l'intégrité territoriale même du Pakistan. Cette politique a coïncidé avec les intérêts tant américains que chinois dans les années 80, quand le gouvernement de Kaboul était effectivement un régime communiste pro-soviétique. Donc ça a arrangé tout le monde, cette politique pakistanaise. Mais les intérêts américains et pakistanais ont semblé diverger à partir du moment où, depuis 2001, les Américains voyaient leur intérêt dans la consolidation de l'État afghan, alors que le régime pakistanais continue à pousser à la désintégration du régime afghan. Ce qui est très intéressant, c'est que de l'autre côté de la frontière afghane, vers l'Occident, vous avez l'Iran. L'Iran, comme les États-Unis, a intérêt à ce que l'État afghan perdure. Donc Washington et Téhéran se trouvent paradoxalement avoir un intérêt convergent. Mais la politique de Trump a tellement braqué l'Iran qu'il a rendu l'Afghanistan, du point de vue américain, stratégiquement indéfendable, puisque des deux côtés, vous attisez les hostilités. Quoique je soupçonnerais fort M. Trump d'être prêt à favoriser l'ascension des talibans sur sol afghan, puisque cela fait plaisir au régime pakistanais, qui lui-même est essentiellement financé par Riyad. Je ne vois qu'une solution et une seule pour apaiser les tensions de cette partie du monde, c'est la réconciliation entre Washington et Téhéran.
Est-ce que vous partagez l'analyse de Michael Barry, Jean-Pierre Perrin, sur le rôle du Pakistan ?
Oui, absolument. Le Pakistan joue un rôle extrêmement négatif depuis toujours. Comme il l'a rappelé, il fait payer à l'Afghanistan le fait que Kaboul était le seul pays à voter contre l'indépendance du Pakistan en 1947. Mais la grande crainte aussi du Pakistan, c'est un encerclement. Un encerclement d'avoir à la fois à l'est l'Inde, qui est son ennemi historique, et pour de très nombreuses années encore, et la crainte de voir une implication indienne, que l'on peut déceler d'ailleurs en Afghanistan, de plus en plus forte, à l'intérieur de l'Afghanistan, donc être pris des deux côtés. Les investissements indiens, on ne les voit pas. Ils sont assez discrets, souterrains, mais ils sont réels en Afghanistan. Ils croient finalement à un certain avenir dans ce pays. Et donc, chaque progression des intérêts économiques, mais aussi politiques indiens en Afghanistan, est vue comme une menace supplémentaire par le Pakistan. Donc, effectivement, le Pakistan a mis en orbite, il n'a pas créé les talibans, mais il les a mis en orbite en les finançant, en les armant, en les conseillant, en envoyant des volontaires se battre à leur côté. Et évidemment, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un pouvoir constitué à Kaboul qui, dans la crainte de cet encerclement, dans la crainte que finalement, dans leur arrière-cour finalement, ils considèrent un peu l'Afghanistan comme leur arrière-cour, eh bien il y a des ennemis qui soient hostiles au Pakistan et qui revendiquent effectivement des territoires qui ont été pris à l'époque britannique pour constituer le Pakistan.
Et est-ce que vous seriez aussi sévère que Michael Barry qui dit donc que les Américains trahissent les Afghans ?
Oui, bien sûr. Enfin, Trump tout au moins trahit les Afghans, oui, évidemment. Et on a quand même, la plupart des généraux américains ne veulent pas un retrait. Ils sont pas hostiles à des négociations de paix, pas du tout. Mais ce qui s'est passé là, dans ces négociations de Doha, c'était pas des négociations de paix, c'était simplement des discussions entre talibans et américains pour que l'armée américaine puisse se retirer du pays tranquillement, sans tomber dans des embuscades, avec finalement un agenda assez long dans le temps qui permette de ne pas avoir l'air d'une défaite, mais d'un retrait très ordonné. Mais en aucun cas, il n'était question de la paix en Afghanistan, il était question simplement d'accords de sécurité entre les talibans et l'État américain.
Et des négociations desquelles le gouvernement afghan était totalement exclu, ce qui est quand même invraisemblable.
Totalement exclu, et simplement le négociateur américain en chef, Khalid Zad, allait informer le gouvernement de Kaboul après chaque round de négociation. Et qu'est-ce qu'il faisait immédiatement ensuite ? Il se précipitait après Kaboul à Islamabad pour informer les Pakistanais. Vous voyez, mais simplement ce que peut-être ne dit pas Mike Berry, c'est que le Pakistan a joué un grand rôle en poussant les talibans à négocier. Les talibans ne voulaient pas forcément négocier. Donc il les a poussés à négocier avec les Américains. Et quand même, on le voit en écoutant vos reportages, tout le monde veut qu'il y ait des discussions entre les talibans, même si pas beaucoup de gens les aiment, et le gouvernement.
En un mot très court, Jean-Pierre Perrin, les Afghans, c'est une société très jeune. Est-ce qu'elle a des aspirations qui vont lui permettre de surmonter tous ces obstacles ?
C'est possible. Enfin, quand on voit la tête des talibans et quand on voit la tête des gens du gouvernement, des vieilles barbes, des gens usés, fatigués, on dit qu'ils n'ont aucun aucun rapport avec la population dynamique afghane qui voudrait faire du rock, qui voudrait faire des sports de combat, qui voudrait faire du théâtre, du cinéma, qui y arrive partiellement. Mais donc, c'est, effectivement, l'avenir est dans la jeunesse. Mais bon, là, le chemin est encore très très long pour elle dans une société à ce point où les vieux, les personnes âgées ont autant de pouvoir.
Merci beaucoup Jean-Pierre Perrin. Afghanistan, la paix à quel prix? Le grand reportage de cette semaine était signé Valérie Crova, réalisation Annie Bro, avec à la technique Pierrick Monsigny à Paris, à Bayeux Eric Audra, avec Alexandre Martin, Alain Piet et Benoît Jégou, le chargé de production. Enfin, merci au public de Bayeux qui est venu suivre l'émission et qui va s'empresser d'aller voir l'exposition Afghanistan, le terrain de guerre du monde. Et à Bayeux comme ailleurs, vous pouvez réécouter et podcaster Grand Reportage sur franceculture.fr.